après le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour, et on attend en principe là en ce moment le début d'un discours du numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem. C'est ce qu'annonce la chaîne du mouvement chiite. Cela après la mort de son chef Hassan Nasrallah au Liban. L'armée israélienne a frappé ce matin Beyrouth intramuros. À suivre aussi dans ce journal, Marine Le Pen et le Rassemblement National devant la justice en France, soupçonnés d'avoir détourné des fonds du Parlement européen pour payer en réalité des salariés du parti. Et puis le Royaume-Uni qui tourne la page du charbon, la dernière centrale du pays, ferme officiellement ses portes aujourd'hui. Tout un symbole. Oui, le cœur de Beyrouth frappé ce matin, c'est la première fois en près d'un an que l'armée israélienne vise le centre de la capitale libanaise avec pour cible des membres d'un groupe islamiste proche du Hezbollah. Sur place, les précisions, Paul Ralifi.
Le raid israélien a visé un appartement dans le quartier à majorité sunnite de Kola, en plein cœur de la partie ouest de Beyrouth. Il a tué le chef militaire du Front populaire de libération de la Palestine et deux autres cadres de ce mouvement de la gauche palestinienne, ainsi qu'un civil. Les chasseurs-bombardiers ont concentré leurs frappes lundi avant l'aube sur le nord de la plaine de la Beka, qui avait déjà été violemment pilonnée dimanche. Les raids, qui ciblent aussi des zones résidentielles, ont détruit des dizaines de maisons, parfois sur la tête de leurs occupants. Les autres régions du Liban n'ont pas été épargnées. Une frappe particulièrement meurtrière à l'est de la ville de Saïda, à 45 km au sud de Beyrouth, a fait plus de 30 morts et 50 blessés. Malgré la disparition de son chef Hassan Nasrallah et de la plupart de ses hauts commandants militaires, le Hezbollah continue de se battre. Il a commencé tôt ses attaques, lundi avant l'aube, avec des tirs d'artillerie contre une position militaire israélienne à la frontière. Dimanche et jusque tard la nuit, il a revendiqué 12 attaques, dont le tir de dizaines de roquettes de moyenne portée et d'un escadron de drones vers des cibles parfois relativement éloignées de la frontière. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Et de nouvelles frappes israéliennes également ce matin dans le sud, près de la ville de Tyr. Là, c'est le chef du mouvement palestinien du Hamas au Liban qui a été tué. Pression maximale donc d'Israël après 8 jours de frappes consécutives et après la mort samedi du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Je vous le disais, un discours du numéro 2 du mouvement, Naïm Qassem, est annoncé là en ce moment selon la chaîne Al-Manar du mouvement chiite. On y reviendra bien sûr. Parallèlement, un deuil national de 3 jours a débuté au Liban. Les populations continuent de fuir les zones ciblées. Quelques 100 000 personnes ont fui vers la Syrie, selon l'ONU. Et l'exode se poursuit, notamment dans le sud. Durement touché, ce n'est peut-être pas fini. Les autorités israéliennes agitent la menace d'une intervention terrestre dans ce secteur, avec comme possible objectif la création d'une zone tampon. C'est précisément dans ce secteur que la FINUL, la force intérimaire de l'ONU, est déployée pour observer cette frontière, pour servir d'intermédiaire, mais sans possibilité de s'interposer, souligne le chercheur Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Son rôle, c'est un rôle de médiation. Cette force, elle a réussi à avoir et à consolider un canal de communication à la fois avec l'armée libanaise, avec l'armée israélienne, mais aussi avec le Hezbollah.
Mais en cas d'incursion au sol d'Israël, quel sera le rôle de la FINUL ?
Ce n'est pas une force militaire et elle n'a pas ni le mandat ni les moyens pour contrecarrer ou s'opposer à une invasion terrestre de la part d'Israël.
Voilà, sur cette FINUL, le chercheur Hasni Abidi, joint par Daniel Valot. J'ajoute que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé au Liban, à Beyrouth, hier soir. Il a notamment remis une aide sanitaire d'urgence au ministre libanais de la Santé. Tous les objectifs seront atteints en Ukraine. C'est ce qu'assure Vladimir Poutine, le président russe, à l'occasion de l'anniversaire de l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie il y a 2 ans. Un anniversaire baptisé en Russie, journée de la réunification. Par ailleurs, l'Ukraine a signalé des attaques aux drones russes ce matin contre la capitale Kiev. En France, détournement de fonds publics européens ou procédures politiques, comme le dénonce le Rassemblement national. tribunal. Le parti et plusieurs de ses cadres sont devant la justice à partir d'aujourd'hui. Le RN, sa présidente Marine Le Pen et d'autres cadres sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds du Parlement européen pour payer de faux assistants qui étaient en fait des salariés du parti. Cela remonterait entre 2004 et 2016. Pour l'accusation, c'est un véritable système qui a été mis en place. Maître Patrick Maisonneuve est avocat du Parlement européen.
Les procureurs et les juges d'instruction ont conclu au fait que c'était Madame Marine Le Pen qui était effectivement l'animateur principal de ce détournement de fonds publics. Maintenant, il appartiendra au tribunal d'arbitrer cette question-là, mais il y a quand même dans le dossier un nombre d'éléments et notamment d'échanges entre le trésorier du parti et Madame Marine Le Pen qui permettent de dire que les fonds du Parlement européen étaient une cible pour financer le parti politique Front National.
L'avocat Patrick Maisonneuve avec Laura Martel, les prévenus en cours notamment 10 ans de prison maximum et une éventuelle peine d'inéligibilité alors que Marine Le Pen a en ligne de mire la présidentielle en France en 2027. Marine Le Pen qui a salué la victoire de l'extrême droite en Autriche, score inédit du FPE, le Parti de la Liberté, hier aux législatives. Près de 29% des suffrages, c'est encore plus que ce que prévoyaient les sondages. Mais le parti fondé par d'anciens nazis n'est pas sûr de pouvoir gouverner s'il ne parvient pas à trouver des partenaires pour une coalition. C'est une page qui se tourne au Royaume-Uni. La fin de l'ère du charbon, la dernière centrale au charbon du pays doit fermer ses portes aujourd'hui. Le Royaume-Uni était le premier pays au monde à disposer d'un tel équipement avec la première centrale créée par Thomas Edison. Et c'est le premier pays du G7 à s'en passer définitivement. Donc tout un symbole, Simon Rosé.
En 1882, pour la première fois au monde, du charbon brûlé pour produire de l'électricité grand public. C'était en plein Londres, la centrale de Holborn Viaduct, le début d'une ère qui a fait du Royaume-Uni un empire carbonifère, comme l'écrivent des historiens, le charbon, clé de voûte de sa puissance. 142 ans plus tard, cette histoire s'achève loin, au nord de Londres, dans la banlieue de Nottingham. Ce lundi, les cheminées de la centrale au charbon de Ratcliffe-on-Soar, la dernière du pays, vont cesser de cracher leur fumée. Entre-temps, ce sont plus de 4,6 milliards de tonnes de charbon qui ont été brûlées pour faire de l'électricité, générant ainsi 10 milliards 500 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette pollution, si elle n'est pas la seule, est bien l'une des raisons avancées par les autorités britanniques pour refermer ce livre. Une sortie planifiée depuis une dizaine d'années qui a permis au secteur énergétique de s'organiser, alors qu'en parallèle, des alternatives au gaz, au renouvelable et au nucléaire étaient mises en place. Une anticipation qui fait aujourd'hui du Royaume-Uni la première économie majeure à ne plus dépendre du charbon.
Simon Rosé, au Kenya, cela avait perturbé le trafic à l'aéroport de Nairobi il y a maintenant 3 semaines. Le syndicat des travailleurs de l'aviation a tranché hier sur un plan du gouvernement qui prévoyait de confier au groupe indien Adani l'agrandissement de l'aéroport en échange d'un droit d'exploitation pour 30 ans. Et après réflexion, après étude de ce plan, le syndicat a dit non. Quel Alex ?
L'accord frauduleux d'Adani doit être annulé, s'indigne Moss Ndiema, secrétaire général du KAOU. Il dénonce un stratagème visant à piller les ressources publiques kenyanes. Dans sa proposition, Adani s'engage à investir plus $1,8 milliard dans la modernisation de l'aéroport Jomo Kenyatta. En échange, il prend une participation de 18% dans l'infrastructure, en obtient l'exploitation pour 30 ans, ainsi que le foncier alentour pour y construire notamment des hôtels et bénéficie d'un régime fiscal favorable. En outre, l'État kényan s'engage à ne pas construire d'aéroport concurrent. Le KAOU dénonce un accord défavorable au Kenya, passé sans appel d'offres, pour le bénéfice d'une élite proche du pouvoir. Son inquiétude est partagée. L'accord devrait inclure une deuxième piste dans les 5 premières années et un investissement dans notre transporteur national, écrit sur X Mohamed Hersi, ancien président de la Fédération du tourisme kényan. Adani a donné la priorité aux hôtels et aux galeries marchandes. On met la charrue avant les bœufs. Mardi, le projet Adani a fait l'objet d'une audition au Sénat. Le KAOU devrait rencontrer les autorités dans la semaine. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, la retraite internationale d'Antoine Griezmann, le vice-capitaine de l'équipe de France, champion du monde 2018. Le footballeur a annoncé donc cette retraite internationale sur son compte X. Le cœur plein de souvenirs, écrit-il, je clôt ce chapitre de ma vie. Grisou, 137 sélections, 44 buts et âgé de 33 ans. C'est donc un jeune jeunes retraités. 11h10 ici à Paris, 8h10, 9h10 temps universel. Je vous laisse avec Caroline Paré et Priorité Santé. À tout à l'heure.
À tout à l'heure et merci Charlotte Idrac.